Salut Pierre-Yves.
Patrick, juste te dire, on a dit grève ensemble. Il y a une grève, après ça, un lock-out. On peut-tu appeler ça un conflit de travail?
Oui, mais il y a une différence dans la nature du conflit,
Exact.
là.
Ben, en fait, t'as une grève au début, puis la partie patronale déclare le lock-out après. Disons qu'il y a une mésentente.
OK,
C'est
mais
ça.
là,
On
chez
va
Jean.
parler de la mésentente.
OK, parle-nous de qui est en grève au groupe Jean Coutu, qui est en conflit de travail, en fait.
Selon les propos rapportés par la presse, il y a une grève de 24 heures suivie d'un lock-out d'une partie patronale. Pourquoi? On ne s'entend pas. Évidemment, ça, Patrick, c'est normal. La question est, on est en pandémie. On est dans une situation où ça va pas bien. Autant de la partie patronale, autant du côté de la partie syndicale, est-ce que c'est le temps? Bon, moi, quand j'étais prof de cégep, je me suis pas fait aimer d'aller au micro puis dire à mes collègues, excusez-moi, on est-tu en train de faire une grève de 7 jours? Pour avoir des augmentations de salaire quand on a 2 mois et demi de vacances par année, puis une semaine de travail qui n'est pas tout à fait 32 heures et demie.
Ce qui est probablement pas le cas des syndiqués de Jean Coutu.
Exactement. Donc, moi, des fois, les gens me prennent à cause de ça. Bon, après ça, on vient chez Jean Coutu qui n'est pas la même game. Mais là, évidemment, c'est un jeu de relations publiques. Du côté de la partie patronale, on peut très bien dire la chose suivante. On pourrait dire, écoutez, Jean Coutu, c'est une acquisition, hein? C'est Métro qui avait l'acquisition de Jean Coutu. Et donc, si on va dans le groupe Métro, on fait une marge de 4% et on est jugé par rapport aux marges de 4% des autres détaillants. Et donc, faut rester dans la marge. Et la marge brute des produits est de 20%, pas 50%. Donc, évidemment, la main-d'œuvre a une valeur là-dedans. Et du côté de la main-d'œuvre, on peut dire, ouais, mais on n'est pas obligé de travailler ici. Vrai. Là, la partie patronale survient puis dit, ouais, mais ailleurs, on gagne de 4 à 8 $ de plus de l'heure pour le même travail. Ça, c'est un jeu de négociation publique. Parce que dans les faits, Patrick, 4 à 8 $, est-ce qu'on parle de la rémunération globale? Est-ce qu'on parle d'heures équivalentes? Est-ce qu'on parle de réalité équivalente? Est-ce qu'on parle de charges de stress équivalentes? Est-ce qu'on a des avantages sociaux équivalents? C'est très facile de lancer le salaire horaire sans mettre les choses en contexte, la formation. Donc, ça aussi, du côté de la partie patronale, c'est un jeu qui joue de façon médiatique. Mais on peut aller ailleurs. On peut regarder des compagnies qui sous-traitent. FedEx fait de la logistique pour d'autres entreprises aussi. Est-ce que Jean Coutu pourrait dire à un moment donné, brandir l'épouvantail de la fusion de centres de distribution pour forcer un peu la négociation? Peut-être. L'employeur et l'employé ont un jeu de négociation là-dedans. Mais là, on nous a parlé de demander 7 à 8 semaines de vacances. Je comprends qu'en négociation, on demande toujours plus, mais dans le monde privé standard, 7 à 8 semaines de vacances, c'est de la science-fiction. Tu commences ta carrière à 3, 4, 5, t'es heureux à 6. Tu dis, aïe, aïe, j'ai 6 semaines dans le monde privé, c'est incroyable. C'est quand même plus d'un mois sur 12. Alors là, c'est peut-être là que le bât blesse. Parce que tu as de la misère avec ce que la partie patronale met dans les médias. Tu as de la misère à avoir de l'appui du public.
Oui, mais en même temps, que tu aies l'appui du public ou pas, quand tu es dans une négociation dans le privé, sincèrement, là, ça change pas grand-chose, là.
Ben oui puis non, Patrick, parce que veux pas, si tu déclenches une grève et que ton voisin d'en face, ton collègue de travail, ton oncle, ta tante, ton père t'a dit, écoute, le grand, vous plaignez le ventre plein. Je dis, attends une minute, là, vous comprenez mal le débat, mais la partie patronale l'a montré d'une façon dans les médias. Vice-versa, quand t'es syndicat, tu peux dire, écoutez, là, voici les heures qu'on fait, voici ce qui se passe, voici l'abus de l'autre bord. Mais chose certaine, il n'y a personne qui gagne à faire une radiation de paye. L'employeur est obligé de déployer des moyens énormes pour compenser le fait que les employés sont en lock-out. Et de l'autre côté, les employés sont obligés de brûler leur fonds de grève ou de brûler une partie de leurs revenus. Et donc, ça va prendre une augmentation encore plus grande pour compenser. Mais si on regarde, Patrick, l'augmentation de salaire qui est dit dans les médias demandés de 25% sur 4 ans, ça fait une dissonance cognitive avec quoi? Avec les prévisions de 2020-2021 diffusées par Mordon-Chapelle qui dit que beaucoup d'employeurs pensent geler les salaires pour les 2 prochaines années. Donc, ça passe mal. D'un autre côté, est-ce qu'il y a un rattrapage salarial à faire?
OK, mais attends. Revenons à Groupe Jean Coutu qui a été racheté par Métro.
Oui.
Je sais pas si c'est le cas je sais pas si c'est le cas là-bas qu'on propose un gel salarial, là, mais c'est un groupe qui s'en est bien tiré, je pense, pendant la pandémie. Je veux dire, on a tous fait l'épicerie, mais on a peut-être même acheté plus de bouffe. Penses-tu qu'il y a des entreprises, je parle pas de celle-là, là, qui vont en profiter pour geler les salaires parce que tout le monde va comprendre, entre guillemets?
Ah, ben attention, t'as raison que l'épicerie comme Métro a fait de l'argent pendant les premières semaines. C'est sûr, il y a des mesures sanitaires qui ont été plus grandes. C'est sûr que ça a été des coûts supplémentaires. Mais Ce que je te dis, c'est plus là, on ne sait pas c'est quoi la proposition de la partie patronale. Ça ne veut pas dire que c'est un gel de salaire.
Ouais, ouais.
Ce que je te dis, c'est que dans l'œil du public, il y a une dissonance cognitive entre ce qu'on demande et ce que les autres vivent en ce moment. Parce qu'il y a aussi l'ère du temps économique dans laquelle on est. Et si c'est une ère où on est plus à l'austérité budgétaire à cause de la pandémie puis ce qui se passe, ça paraît bizarre de sortir publiquement à ce moment-là. Mais là, les deux parties sont pas en train de gagner, Patrick. C'est un jeu de guerre, c'est un jeu... Tu sais, on nous dit souvent aujourd'hui, le syndicat est une bonne chose, c'est vrai, parce que ça permet de négocier des ententes de 4-5 ans d'un coup et pas avoir à faire du 1-1 avec chaque employé. Il faut le voir. C'est un plus de négocier les salaires de tout le monde d'un coup pour 5 ans. C'est super. D'un autre côté, faut que la partie patronale, la partie syndicale regarde la capacité de payer puis se dise, bon, ensemble, c'est quoi le juste milieu du bout de chemin pour qu'on reste compétitif dans le monde de fous dans lequel on vit?
Mais Pierre-Yves, c'est pas la première fois que je t'entends dire que ce que tu perds dans une grève, tu le récupéreras jamais. Est-ce qu'il y a des circonstances pour toi là où ça peut être justifié de faire la grève?
Mais regarde, je te donne un exemple. Mettons que tu demandes 2% d'augmentation de salaire à ton employeur, puis que tu fais la grève pendant 3 semaines ou il y a un lock-out pendant 3 semaines, puis que ton fonds de grève est pas suffisant pour te donner l'équivalent de ta paye. Ben ces 3 semaines-là. C'est 2% par semaine. Alors même si tu as une augmentation de 1% finalement après avoir coupé la poire en deux avec ton employeur, puis que tu te retrouves avec 1% par année ou 2% par année, tu viens de perdre 2% par semaine de ta paye. Tu comprends? Mmh. Fait qu'il y a rien de gratuit là. La grève que tu fais dans un bar est jamais payante. Maintenant, il y a des employeurs qui tirent bien trop l'élastique de l'autre. Tu veux pas rester 2-3 ans sans convention collective, puis un moment donné on te met au pied du mur puis t'es obligé de faire la grève. Donc je dis pas que je suis un bord ou de l'autre, j'essaie d'être tempéré. Là. J'essaie de te dire que c'est toujours triste de voir un conflit de travail parce qu'on en sort perdant des deux côtés tout le temps et on revient avec un sentiment acrimonieux de ne pas avoir un respect mutuel des deux côtés.
OK, parle-moi du marketing, du conseil robotisé. C'est quoi ça que ça mange en temps de pandémie?
C'est parce que Wealthsimple lève 114 millions auprès de partenaires privés pour développer, bon, encore, Wealthsimple. Wealthsimple, c'est une espèce de robot conseiller, mais de Power Corp en partie. Mais ce qui est drôle, c'est de dire, on vise le millénarial qui veut pas être dans une institution financière comme les autres, qui veut avoir une application qui lui parle, qui le gère, qui lui dit comment placer ses objectifs de placement, qui rend ça simple. Mais dans le fond, tout ça, c'est du marketing parce que dans les banques, chez Banque Nationale, on a fait la même chose. On appelle ça InvestCube, puis chez RBC, on appelle ça RBC InvestiClick. Puis c'est quoi tout ça, Patrick? Ben c'est un robot. En fait, c'est une application Internet, là. Tu mets ton argent, tu dis, mettons, voici mon profil d'investisseur après avoir répondu à des questions. On détermine que tu es, par exemple, 80% actions, 20% titres à revenu fixe. Puis quand les actions puis les revenus fixes bougent, ben on repondère automatiquement ton portefeuille selon le ratio que tu voulais au départ.
C'est fascinant. Donc, est-ce que tu sens ma frénésie quand tu m'expliques ça?
Mais ce que je veux dire derrière ça, c'est que on a beau vouloir redéfinir l'épargne, redéfinir la gestion de portefeuille et se redéfinir comme épargnant, comme être dans le futur, il en demeure pas moins que derrière il y a des humains, des gestionnaires de portefeuille qui font des portefeuilles types par profil et puis que là, il y a juste une application qui fait le match entre les deux automatiquement en te proposant des faibles frais de gestion. Mais c'est une gestion relativement passive. Ce n'est qu'un rebalancement de portefeuille. Alors ne pense pas que c'est la révolution industrielle du placement. Ce n'est que du marketing informatisé beaucoup, beaucoup orienté pour un millénarial qui est bien à l'affût de ce qu'il voudrait avoir.
Ah, oh, comme c'est bien dit. C'est libéré. Merci, Pierre-Yves.
Bye-bye.